Vous écoutez On lit pour vous.
Si on perd la confiance, trois points de suspension. C'est le titre d'une chronique signée José Boileau, publiée dans l'Actualité, édition de juin 2026. Il faut faire confiance aux autres pour vivre en société. Être constamment sur ses gardes engendre de l'anxiété et de l'agressivité, ce qui rend le quotidien intenable. En médecine, la paranoïa est associée à de grandes souffrances. En politique, le niveau de confiance est d'ailleurs un reflet de l'état de la démocratie. Le site de l'Organisation de coopération et de développement économique, l'OCDE, l'explique bien. Citation : La confiance de la population est un pilier de la démocratie car elle favorise le débat et la participation, encourage le respect de la loi et facilite les réformes. Fin de citation. La méfiance envers le monde politique va néanmoins croissant, comme en témoignent des sondages dans des pays occidentaux. Ici, les données de Statistique Canada font voir des institutions qui perdent des plumes. En 2013, 38% des Canadiens faisaient confiance au Parlement fédéral contre une très faible proportion de 28% 10 ans plus tard. Les services de police trônent au sommet de la confiance, mais le taux d'appui de 76% recueilli en 2013 est passé à 65% en 2023. Le système de justice suscitait la confiance de 57% des Canadiens en 2013 contre 48,6% en 2023. Pour les médias, le taux a moins diminué, mais il était déjà peu élevé. De 40%, il a glissé à 36,7%. Ce constat est consternant, mais au moins le potentiel d'amélioration existe. Par exemple, l'OCDE souligne qu'on peut repenser les processus de participation électorale pour contrer le fait que 53% des citoyens croient que, citation, « le système politique ne permet pas aux gens comme eux d'avoir leur mot à dire », fin de citation. Parenthèse, résultat d'enquête, au pluriel, menée en 2023 dans 30 pays membres de l'organisation. Fin de la parenthèse. L'enjeu de la confiance semble toutefois avoir changé d'échelle. Il relève désormais de la vie quotidienne, ce qui m'apparaît plus pernicieux pour notre santé citoyenne. Les cas de fraude en sont une éloquente démonstration. Ils se multiplient au point que, en début d'année, un sondage réalisé par Léger montrait que le quart des Canadiens avait déjà été victime de fraude ou d'extorsion. Je dirais même que tout le monde a déjà reçu de faux messages d'une banque, d'une entreprise ou d'un gouvernement visant à nous arnaquer. Ça marche, puisque les signalements, une infime minorité, ont atteint plus de 704 millions de dollars en 2025, selon le Centre antifraude du Canada. Or, les stratagèmes des fraudeurs ne cessent de se raffiner, comme en fait foi la mésaventure vécue par Émilise Lessard-Terrien. Dans sa chronique du Journal de Montréal, l'ex-députée de Québec solidaire a raconté ce printemps comment ses courriels d'affaires avaient été interceptés, ce qui lui a fait perdre des milliers de dollars. Citation, « Il n'y avait aucune façon de détecter ces interceptions en amont », écrivait-elle. Fin de citation. Mais le plus dur, c'est de constater que, citation, « dorénavant, le monde doit s'aborder avec de la méfiance au lieu de la confiance. » Fin de citation. Impossible de la contredire, surtout en y ajoutant les ravages de l'intelligence artificielle. La même semaine où apparut cette chronique, des reportages révélaient que les tribunaux doivent de plus en plus faire face à des argumentaires qui s'appuient sur des jugements inventés et que les services d'immigration butent sur des dossiers falsifiés préparés par l'intelligence artificielle. De même, la responsable des normes journalistiques du Globe and Mail racontait que des médias reçoivent maintenant, à leur insu, des textes écrits en partie ou en entier par l'intelligence artificielle. Le quotidien torontois a donc resserré ses règles pour s'assurer que la personne qui veut être publiée existe bel et bien. Parallèlement, au quotidien, la prudence semble de moins en moins de mise devant ce nouvel outil, même chez des gens dont la profession est fondée sur le doute et le questionnement, des juristes, des professeurs, des journalistes, mais qui succombent à la tentation de l'efficacité associée à l'intelligence artificielle. Certes, celle-ci est d'une rapidité spectaculaire pour réagir aux demandes et l'Internet met systématiquement au premier plan ses réponses. Cette « aperçu généré par l'IA » se conclut toutefois sur la phrase suivante. « L'intelligence artificielle peut se tromper. Veuillez donc vérifier ses réponses. » Qui se livre à l'exercice? Bien peu de ses adeptes, si j'en crois ce que j'observe autour de moi. Pour ma part, mes 40 ans de métier me permettent souvent de débusquer sur le champ les bêtises de cette envahissante intelligence artificielle qui me fait tellement râler. Oust, hors de ma vue. Je m'inquiète cependant pour ceux qui n'ont pas les connaissances ou une mémoire intime du passé pour corriger les erreurs ou sentir le besoin d'aller plus loin. Méfiant des autres, mais aveuglément confiant dans la machine, est-ce là le sombre avenir qui se dessine? C'est sur cette question que José Boileau met un terme à sa chronique qu'elle a titrée « Si on perd la confiance, 3 points de suspension », publiée dans l'actualité édition de juin 2026.
Vieillir, c'est pas si pire. Les clés pour se préparer au vieillissement. Un texte de Suzanne Dansereau, paru le 14 mai 2026, dans Virage. Tout comme on planifie notre retraite avant de la prendre, il faut se préparer au vieillissement avant d'atteindre un âge avancé, croit le gériatre Stéphane Lemire. Dans « Vieillir, c'est pas si pire », il plaide pour une préparation active afin de préserver autonomie, capacité cognitive et bien-être à long terme. « C'est normal, je vieillis. » Cette phrase, le docteur Stéphane Lemire rêve de ne plus jamais l'entendre. Elle l'horripile. Car s'il y a une affirmation qui est trompeuse, c'est bien celle-là. Elle incite à l'inaction. Elle mène au dépérissement. Et ça devient une prophétie autoréalisatrice, affirme le célèbre gériatre québécois lors d'une entrevue avec Virage. C'est pourquoi, dans son plus récent livre, il s'emploie à expliquer la différence entre ce qui est normal et ce qui ne l'est pas en vieillissant. Il propose ensuite des moyens concrets pour développer ce qu'il appelle une capacité d'auto-soin afin de rester aux commandes de sa santé. Ce faisant, il nous montre à quel point nous disposons d'un réel pouvoir d'agir sur notre bien-être et notre autonomie. Vieillir, c'est pas si pire, se présente comme un véritable guide du vieillissement combinant données probantes, exercices d'auto-réflexion, astuces, conseils pratiques et plans d'action. L'ouvrage couvre l'ensemble des composantes de la santé, soit l'autonomie et la mobilité, la nutrition, le sommeil, les capacités cognitives et la santé mentale, sans oublier les fonctions urinaires et intestinales, moins sexy, certes, mais néanmoins essentielles. La cinquantaine, un moment charnière. Dès la cinquantaine, le corps se transforme. Entre autres, il perd de la masse musculaire et devient moins efficace pour transformer les protéines en muscles. La solution? Augmenter son apport en protéines tout en renforçant sa musculature. De façon générale, en matière de santé physique, on accorde beaucoup d'importance au cardiovasculaire. Or, l'une des clés du vieillissement en santé, plaide le docteur Lemire, consiste à ajouter d'autres dimensions. Exercice de résistance, renforcement musculaire, équilibre et travail de la flexibilité. Sédentarité toxique. Il importe aussi de bouger régulièrement, car la sédentarité est toxique, affirme l'auteur. Une menace bien réelle pour les personnes retraitées qui n'ont plus à se déplacer quotidiennement pour le travail et peuvent être tentées par les réseaux sociaux ou l'enchaînement de séries. Faire une heure d'exercice après 8 heures de sédentarité n'est pas la solution, précise-t-il. Après 2 heures d'inactivité, le cholestérol commence déjà à se déséquilibrer. Il vaut mieux faire quelques minutes d'exercice toutes les 45 minutes. Entraîner notre cerveau. Sur le plan cognitif, il est plus difficile de distinguer ce qui est normal de ce qui ne l'est pas, reconnaît le gériatre. L'important, selon lui, est de développer ce qu'il appelle une réserve cognitive qui tente à s'appauvrir à la retraite. Au travail, les sollicitations sont nombreuses pour planifier des réunions, coordonner des activités, résoudre des problèmes, transmettre des connaissances ou interagir avec les autres. Il faut continuer d'entraîner le cerveau de cette façon à la retraite. Ces stimulations combinées à l'activité physique, à une bonne nutrition et à un sommeil réellement réparateur contribuent à la santé cérébrale. Il faut aussi retenir que le stress nuit aux fonctions cognitives, tout comme les problèmes d'audition et de vision. Les interactions sociales sont également essentielles. L'isolement social, rappelle le docteur Lemire, constitue un important facteur de risque de mortalité. Une journée parfaite. Vieillir, c'est pas si pire, décrit une journée idéale pour le cerveau. Au réveil, on prend 5 minutes pour observer sa respiration, un exercice de pleine conscience. Au déjeuner, un repas méditerranéen riche en protéines, suivi d'une marche matinale, en variant le trajet de temps à autre, car la nouveauté stimule le cerveau. Avant le lunch, on échange avec une personne de l'entourage, du travail ou du voisinage. En après-midi, on se met en mode apprentissage. Au souper, un autre repas méditerranéen protéiné accompagné d'une conversation stimulante. En soirée, on réduit graduellement les stimulations et, avant le coucher, une courte méditation est de mise. Entre ces moments, l'activité physique est intégrée naturellement à la journée. Pas juste des pilules. L'ouvrage aborde également l'usage des médicaments, les rendez-vous médicaux et le rôle des pharmaciens et pharmaciennes. Avant de réclamer une prescription, le docteur Lemire souligne qu'il existe parfois des solutions non pharmacologiques. Si une consultation médicale s'impose, il est important de bien préparer sa visite, afin de tirer le maximum des maigres 7 à 10 minutes auxquelles on a droit. Il arrive aussi qu'un problème de santé soit causé par la prise d'un nouveau médicament. Dans ce contexte, le personnel en pharmacie devient un allié précieux en vieillissant. Marcher, socialiser, apprendre, consulter au besoin, cultiver sa curiosité. Voilà, en résumé, le message de cet ouvrage qui rappelle que le système de santé ne compte que pour 25% des déterminants d'une bonne condition générale. Si l'on soustrait la part génétique, qui en représente 15%, il reste plus de 50% de facteurs sur lesquels nous avons un réel contrôle. D'où l'importance de pratiquer les auto-soins pour vivre longtemps et surtout en santé. C'était « Vieillir, c'est pas si pire, les clés pour se préparer au vieillissement », un texte de Suzanne Dansereau, paru le 14 mai 2026 dans Virage.
Performer dans le plaisir, c'est possible. Un texte d'Ariane Lacourcière, paru le 5 juin 2026 dans La Presse. Depuis sa mise sur pied en 2025, le protecteur de l'intégrité en loisirs et en sport du Québec a reçu plus de 800 plaintes et signalements, surtout de la part de parents. La majorité vise des entraîneurs et des athlètes et concerne de la violence psychologique. Et dans la plupart des dossiers, un problème sous-jacent émerge. L'approche malsaine à la compétition. C'est présent dans beaucoup de dossiers, le rapport à la compétition, à la performance. On perd de vue le plaisir. C'est correct qu'il y ait des niveaux compétitifs. C'est juste que, quand on parle de jeunes de 10 ou 11 ans, il faut moduler. Performer dans le plaisir, c'est possible, affirme le protecteur de l'intégrité en loisirs et en sport, PILS, maître Hugo Lafontaine en entrevue à La Presse. Après avoir travaillé au protecteur du citoyen pendant 12 ans, puis contribué à la mise sur pied du protecteur de l'élève, maître Lafontaine a été nommé à la tête de PILS l'an dernier. En près d'un an, l'organisme a reçu plus de 800 plaintes et signalements. La majorité de celles-ci proviennent de parents, 50%, ou d'athlètes eux-mêmes, 22%. Les personnes visées par les plaintes sont les entraîneurs, 30%, et les athlètes, 20%. Les parents toxiques n'ont fait l'objet que de 5% des plaintes. Sur l'ensemble des plaintes reçues, le PILS en a traité à peu près 20%. Une bonne part n'était pas dans notre champ de compétences, c'est-à-dire que ce n'étaient pas des cas d'atteinte à l'intégrité, par exemple, notre maître Lafontaine. Des plaintes pouvaient aussi concerner des problèmes ponctuels qui ont pu être réglés sans enquête approfondie du PILS. D'autres dossiers ont aussi été transmis à la police ou à la Direction de la protection de la jeunesse, car le PILS n'est pas un service d'urgence, rappelle maître Lafontaine. Des dossiers fort complexes. Les principaux motifs de plainte au PILS sont la violence psychologique, 44%, la négligence, 20%, et les représailles, 15%. La semaine dernière, La Presse a écrit que le délai moyen de traitement des plaintes au PILS a été de 112 jours, alors que la loi prévoit un délai de 45 jours. Pour les dossiers de violence à caractère sexuel, ce délai a été de 100 jours. Aucune plainte n'a été traitée dans les délais. Maître Lafontaine souligne que de nombreux dossiers traités par son équipe sont fort complexes, particulièrement dans le cas des dossiers de violence psychologique, dit-il. On nous présente des situations toxiques de conflits interpersonnels, évidemment empreintes de grande subjectivité. Ça dure souvent depuis des années. Démêler tout ça en 45 jours, c'est difficile, dit-il. D'autant plus que beaucoup de clubs sportifs sont gérés par des bénévoles. Il y a aussi parfois plusieurs plaignants qu'il faut tous interroger. Les enquêteurs du PILS prennent également le temps de rencontrer les personnes visées par les plaintes pour entendre leur version. Nos conclusions peuvent avoir un impact sur les entraîneurs. Sur leur vie professionnelle, ce sont leurs emplois qui sont parfois en jeu. Leur réputation. Il faut prendre le temps, note-t-il. Maître Lafontaine dit que son objectif principal est d'arriver avec des conclusions de qualité. Je n'ai pas envie de me développer une réputation de personne qui fait des enquêtes botchées, dit-il. Il reconnaît qu'il doit toutefois trouver le parfait équilibre entre célérité et qualité. Maître Lafontaine assure qu'aucune personne en danger n'est laissée à elle-même quand une situation est signalée au PILS. Il n'y a pas d'agresseur sexuel en puissance en contact avec un mineur, martèle-t-il. Dans la dernière année, le PILS est par exemple intervenu dans deux dossiers de plaintes à caractère sexuel au JU du Québec et dans un camp de jour. Les situations avaient été gérées par les organisateurs locaux. Les personnes visées par les plaintes avaient été exclues, mais il y avait des questions à poser sur la façon dont le camp de jour et les Jeux du Québec avaient géré la situation, explique Maître Lafontaine. Effectifs suffisants. Au départ, 12 personnes travaillaient au PILS. Elles sont maintenant 17, dont 10 enquêteurs. Et prochainement, les effectifs passeront à 28. Pour Maître Lafontaine, ces effectifs sont suffisants. Honnêtement, ce qui a le plus d'impact sur les délais de traitement des plaintes, ce n'est pas les ressources, dit-il. Maître Lafontaine donne l'exemple du dossier de judo Sidokan à Montréal, où un entraîneur s'est vu imposer une suspension d'un an par le PILS pour avoir fait preuve de violence psychologique envers de jeunes athlètes. Des centaines de pages de documentation ont dû être consultées et de nombreux témoins interrogés. Ce dossier-là, je n'aurais pas pu le traiter en moins de 8 mois, même si j'avais eu une équipe de 50 personnes, dit-il. Le temps de mener son enquête, le PILS avait communiqué des recommandations provisoires au club judo Sidokan. L'entraîneur ne pouvait se retrouver seul avec des athlètes. Seulement 5 dossiers ont fait l'objet de telles mesures provisoires dans la dernière année. Le PILS a finalement fait une recommandation de suspension. 7 dossiers ont fait l'objet de sanctions disciplinaires du genre dans la dernière année. Outre les suspensions, le PILS a aussi fait des recommandations de formation, d'ateliers réflexifs ou d'accompagnement dans de nombreux dossiers. Ces démarches ne sont pas de simples formalités. Elles amènent souvent les organisations et les personnes concernées à réfléchir en profondeur à leur culture, à leur façon de faire et, dans certains cas, à mettre en place du mentorat ou des mesures d'encadrement renforcées, assure Maître Lafontaine. Même s'il n'a pas de pouvoir coercitif, Maître Lafontaine assure que les recommandations du PILS sont prises au sérieux. Jusqu'à maintenant, 90% des plaintes faites au PILS touchent le monde du sport et concernent des personnes mineures. Maître Lafontaine dit travailler à aller rejoindre la clientèle du milieu des loisirs ainsi que les personnes de tous âges. C'était « Performer dans le plaisir, c'est possible », un texte d'Ariane Lacourcière paru le 5 juin 2026 dans La Presse.
Les microplastiques et l'apnée du sommeil. Un texte de Mathieu Perrault paru le 19 avril 2026 dans La Presse. Une lectrice, Marguerite Lantaigne, demande « Depuis plusieurs années, j'utilise un appareil d'apnée du sommeil. Je me demande si, tous les soirs, je m'envoie dans les poumons de l'air contaminé par des microplastiques. » Il est certain qu'il y a plus de microplastiques qui entrent dans les poumons quand on utilise un appareil à pression continue, CPAP. Mais il n'y a pas de preuve que cela soit plus dommageable que l'apnée du sommeil non traitée, selon une pneumologue italienne qui a fait le point sur cette question en janvier 2026. On ne peut pas exclure des risques liés aux microplastiques pour les utilisateurs des CPAP, mais il n'y a pas de preuve formelle qu'ils causent des problèmes de santé, indique Maria Bonsignore, de l'Université de Palerme, qui a publié son analyse dans le Journal of Clinical Sleep Medicine. Les CPAP sont faits en plastique, du tube au réservoir d'eau, et on met de l'eau déminéralisée provenant de bouteilles en plastique. Il faut se souvenir que l'apnée du sommeil non traitée peut augmenter le risque cardiovasculaire, de démence et aussi de fatigue, rappelle-t-elle. La question des microplastiques dans les CPAP a été mise en évidence par un rappel d'appareils CPAP de la société Philips en 2021. La mousse insonorisante pouvait se désagréger et générer des particules pouvant être inhalées. On n'a jamais fait la preuve qu'il y avait des problèmes de santé liés aux appareils Philips, dit la docteure Bonsignore. Les autres fabricants ont dit qu'ils n'avaient pas ce problème, mais on n'a jamais comparé la quantité de microplastique inhalée des différents modèles. Et surtout, souligne la pneumologue palermitaine, l'importance des microplastiques des CPAP comparée à tous ceux qu'on ingère est loin d'être claire. Il y a des microplastiques partout, illustre-t-elle. Quand je pense à la soupe de microplastique dans laquelle nous baignons, des fois je suis terrorisé. On ne connaît pas leur impact sur le cancer, l'inflammation, donc des problèmes immunitaires ou cardiovasculaires, ou alors leur impact sur les infections. Il se peut que les bactéries qui se lient aux microplastiques soient plus difficiles à traiter. D'autant plus que le plastique est omniprésent en santé, parce qu'il est peu coûteux et facile à stériliser, dit-elle. Pas d'études disponibles. Aucune étude n'a montré qu'il y a plus d'infections respiratoires chez les patients qui utilisent un CPAP, et des études montrent que traiter l'apnée du sommeil de cette façon réduit la sévérité de l'asthme et de l'obstruction pulmonaire chronique, selon John Kimoff, spécialiste des troubles du sommeil à l'Institut de recherche du CUSUM. Le problème, selon la docteure Bonsignori, est qu'il est très difficile de trouver des gens qui ne sont pas exposés aux microplastiques. Si on n'a pas de groupe contrôle, comment peut-on calculer le risque, rappelle la docteure Maria Bonsignori. Il faut calculer la quantité de microplastiques dans chaque organe. C'est très lourd comme méthodologie. Plusieurs études ont examiné le cancer chez les patients qui utilisent un CPAP, sans trouver de risque accru, dit le docteur Kimoff. Il pourrait même y avoir un avantage pour certains cancers comme le mélanome. Des mécanismes pourraient expliquer cette diminution du risque de cancer chez les patients atteints d'apnée du sommeil qui sont traités avec un CPAP par rapport à ceux qui ne le sont pas, explique le docteur Kimoff. Il pourrait s'agir des effets négatifs du manque d'oxygène sur le corps ou sur le système immunitaire anti-cancer, ou alors d'un développement accru des vaisseaux sanguins chez les patients ayant de l'apnée du sommeil qui pourrait stimuler la croissance des tumeurs. En savoir plus, source Respiratory Medicine. 39%, proportion des hommes américains qui souffrent d'apnée du sommeil. 26%, proportion des femmes américaines qui souffrent d'apnée du sommeil. 18%, proportion des cas d'apnée du sommeil qui sont sévères. C'était « Les microplastiques et l'apnée du sommeil », un texte de Mathieu Perrault, paru le 19 avril 2026 dans La Presse.